Bonjour, vous êtes sur Bagro.1, j'ai fait l'expression du combo breaker. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars, c'est le pif de l'actu, un nouveau podcast avec un petit peu d'actu et deux chroniques pour vous accompagner pendant cette émission qui durera à peu près une heure. On croise les doigts. Flashou, salut.
Salut tout le monde.
Frosk, salut.
Salut.
Et Legacy, le meilleur d'entre nous, salut.
Le salam.
Le salam. Très bien, alors aujourd'hui on va vous parler vite fait donc de Power Rangers, de Dead or Alive. Il y aura aussi des nouveaux persos comme d'habitude dans plein de jeux différents. Et on essaiera de discuter peut-être un peu de Stadia, si vous en avez pas entendu parler, mais voilà, ça peut peut-être impacter notre monde. On aura aussi des chroniques, une sur le Adaptative Controller du Microsoft, j'ai oublié son petit nom de code. C'est une chronique, on vous le répétera tout à l'heure, mais qui a été enregistrée à un autre moment, donc on va la diffuser, et on aura une chronique qu'on va découvrir, celle de Flashou, qui va rentrer, comment dire, est-ce qu'on peut citer le nom de l'auteur dont tu t'inspires, Flashou ?
On va carrément entrer dans les grandes chroniques légendaires de la radio avec du Pierre Desproges.
Avec du Pierre Desproges, like, voilà, il a un petit Desproges, on peut dire ça, bon il fera pas la voix, mais il a un bon petit Desproges, on découvrira ça ensemble. On va lancer maintenant l'actualité. L'actualité, elle commence avec, c'est le premier round, elle commence avec Legacy qui va nous parler de Power Rangers.
Oui, donc si vous avez jamais grandi, donc Power Rangers arrive donc en jeu de combat. Battle for the Grid, alors la date de sortie du jeu a été annoncée récemment. Il sort dans deux jours, à partir de ce podcast, donc le 26 mars. Chance est que le jeu sera peut-être sorti quand vous entendrez ce podcast. Alors, ce petit jeu, on va vous en faire bien sûr un first attack avec donc l'ami Flashou qui sera là, sûrement Sheik qui va s'occuper de discuter du jeu. Le jeu, lui, ce ne sera pas un jeu triple A. Ce sera clairement un jeu double A, voire même petit studio. On le voit d'ailleurs sur le prix. L'édition de base, elle sera à 19€, tandis que vous aurez une édition collector à 39,99€. Alors, qu'est-ce que contient cette édition collector ? Le Season Pass numéro 1, donc où vous aurez trois personnages supplémentaires, leur histoire en mode arcade et un nouveau skin de guerrier.
Plus de couleurs de Power Rangers.
Non, des skins. C'est pas vraiment pas des couleurs, c'est des skins. C'est-à-dire que tu as des personnes. En fait, il y a une base de personnages qui aura un gameplay. Je prends le Power Ranger rouge. Le Power Ranger rouge de base, c'est celui de la série qu'on a tous connu, Jason Lee Scott. Et en fait, il y aura différents skins qui, au lieu de ce soit, en fait, on peut pas faire des couleurs parce que les Power Rangers, c'est des couleurs. Donc, en fait, on va prendre un Power Ranger rouge d'une autre timeline, en fait.
Ah, tu veux dire, donc au début, on aura les dinosaures, après, on aura les ninjas.
Voilà, exactement.
Et pour ça, ils vont alterner les différentes saisons, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc, d'ailleurs, il y a un truc qui me vient à l'esprit. L'autre jour, donc ma fille regardait la télé sur Gulli ou je sais plus quoi. Il y avait Power Ranger. Et je crois que c'était Power Ranger Ninja. Et dedans, en fait, je regarde la télé, je vois Jiraiya. Vous vous souvenez de Jiraiya ?
Bien sûr, Jiraiya Ninja.
Jiraiya Ninja. Et donc, du coup, il y avait Jiraiya Ninja avec les Power Rangers Ninja.
Il y a beaucoup de crossovers comme ça dans l'univers du Sentai.
Et ça m'a fait tout chaud au cœur, tout bizarre. Mais voilà, excuse-nous, Legacy, pour cette...
Pas de problème. Donc, vous aurez plein de DLC. Si vous connaissez Power Rangers, vous saurez de qui je parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu sera disponible donc, en beaucoup de langues, donc français, anglais, etc. Et surtout, le jeu aura une fonctionnalité qui sera plutôt sympa, c'est qu'il sera cross-play et cross-progression. Donc, c'est-à-dire que vu que le jeu sort à la fois sur PS4, Xbox One, Switch et un peu plus tard sur PC, en fait, si vous commencez votre partie sur PS4, vous faites des missions, des combats, vous pouvez reprendre votre partie exactement sur Nintendo Switch. Je pense que quoi qu'il arrive, il faudra payer le jeu sur chaque plateforme, hein. C'est clair, mais vous aurez en tout cas une possibilité de crossplay, donc de jouer avec quelqu'un qui joue sur Switch sur une autre console. Je ne sais pas si c'est PlayStation. Ce sera pour Switch, Xbox One et PC, pas PlayStation à cause de leur politique, mais vous pourrez avoir un crossplay, une cross-progression. Le jeu a l'air d'être développé dans un esprit vraiment jeu de combat, parce qu'il y a eu notamment... je crois que c'est Clock et Justin Wong qui ont été consultants sur le jeu, mais avec toujours cette idée d'oublier les manipulations compliquées pour amener le plus de joueurs possible. Donc le jeu sera très simple à jouer, mais aura quand on regarde les développeurs parler, ils parlent de cross-up, ils parlent de punition, de zoning, etc. Donc ils ont quand même le vocabulaire. Et on sait que c'est un mélange qui est difficile, accessibilité et profondeur. Donc, avoir le test en main dans le first attack.
Très bien. En tout cas, bon, s'il y a Justin Wong et d'autres personnes qui s'y connaissent, c'est normal qu'il y ait ces mécaniques importantes dans un jeu de combat. Merci, Legacy. Prosk, Dead or Alive 6 a beaucoup fait parler dernièrement.
Oui, bah, on en avait déjà parlé dans le podcast précédent au niveau de sa com, qui était un petit peu à double tranchant et pas forcément super agréable. Le jeu a fini par sortir le 1er mars. Et on a eu la première surprise en fait le jour même de voir que le Season Pass allait être disponible pour le jeu et coûter la somme de 90€, ce qui est donc une fois et demie le prix du jeu proprement dit. Oui. Ça c'est le début. C'est cher,
ça pique.
D'autant plus que pour un Season Pass qui va donc durer toute la saison, on apprend qu'il s'étale de mars à juin 2019, 4 mois, ce qui fait un petit peu léger. Qui va contenir 60 costumes, pourquoi pas, c'est du Dead or Alive, un personnage qui est Mai Shiranui qui vient de KOF, de SNK, et un autre personnage mystère de SNK. Donc il faut savoir que le jeu il est déjà sorti, si tu précommandais, tu avais deux personnages en plus, ils ne sont pas dans le Season Pass, il faut les prendre en DLC. Donc en fait, on est à 60€ plus 90, on est à 150 balles de jeu, il n'est pas complet. Et cerise sur le gâteau, il se réserve la possibilité, dans cette période, de sortir du nouveau contenu qui ne sera pas dans le Season Pass. Putain, mais pourquoi je prendrais un Season Pass? Là, t'en es en fait, t'en es un peu pour ton argent, il y a de quoi être un tout petit peu en colère. Et pour accélérer encore un peu sur la Yolotoroute, en fait, 15 jours plus tard, 15 jours après la sortie du jeu,
accrochez-vous,
après avoir dépensé 150 balles, on te sort la version free-to-play du jeu, parce qu'autant y aller à fond, déjà, autant sortir le jeu gratuitement, de toute façon, personne ne l'a acheté, on y va. C'est pas exactement une version free-to-play, c'est une version Core Fighters, en fait, comme ils avaient fait pour Dead or Alive 5 avec beaucoup de retard à l'époque, ou en tout cas beaucoup plus tard que la sortie du jeu, là c'est donc 2 semaines plus tard. On a 4 personnages, pas mal de modes de jeu, une bonne grosse introduction en mode histoire, le mode arcade, les tutoriels, et ça permet, si vous voulez, de s'essayer au jeu. Le mode online est disponible, c'est pas désagréable. Seulement, en fait, quand le jeu est sorti, il y avait qu'un seul mode online, c'est le Ranked, où tu peux trouver des gens de façon aléatoire, FT2 maximum. Il n'y a pas de lobby, tu ne peux pas encore jouer avec tes amis sur le jeu. Donc, le premier truc qu'ils ont dit, c'est évidemment, vous inquiétez pas, on va patcher ça. Et plutôt que de respecter les joueurs qui avaient déjà trouvé leur porte-monnaie, en fait, ils ont préféré sortir cette version free-to-play, donc, où tu as ce mode online, mais tout ce que tu as de dispo dans le jeu pour l'instant pour jouer en ligne, en fait.
Très bien.
C'est pas un aveu d'échec, de toute façon, de le sortir aussitôt.
Il y a des gens qui le prennent comme ça, moi je suis pas sûr. Je pense que c'était fait pour... En fait, il y a eu un tout petit leak, un peu avant la sortie du jeu, où effectivement, on s'est rendu compte qu'il y aurait un Core Fighters qui allait sortir. On a demandé à Shimbori dans une interview si c'était vrai, le producteur du jeu, et il a dit... pour le coup, ça ressemblait à un vrai leak, il était emmerdé. Il a dit, oui, d'accord, ça va sortir, mais je peux vraiment pas rien vous dire pour le moment. Manifestement, on n'a pas voulu en parler, on l'a caché, et on sort ça 2 semaines après la sortie du jeu. Quelle que soit l'intention, c'est vaseux. C'est vraiment... qu'on te demande de payer cher pour soutenir le jeu, je pense que tout le monde est pour. On sait que des Dead or Alive, il n'y a pas beaucoup de joueurs, etc. Mais juste prenez pas les joueurs pour des cons. J'ai envie de te dire que ça dure et je pense que c'est encore un clou dans le cercueil de Dead or Alive. Qui, pour le coup, est un bon jeu et c'est quand même là que je veux en venir. C'est que du coup, passer tout ça, ce modèle free-to-play en lui-même, moi je trouve qu'il est vachement bien. C'est vrai que j'ai pris Tekken au prix fort. J'ai joué, je pense que j'ai une 60aine d'heures et en fait j'ai joué genre 2 persos dans Tekken. Je suis pas tryharder, je joue pas en tournoi. Vas-y, tu.
Je veux dire un truc, ce serait pas plutôt un free to start que free to play, parce que free to play, t'as des mécaniques qui te permettent d'ajouter des choses dans ton jeu en jouant beaucoup et en gagnant. Là non, faut juste payer. Donc là, c'est juste le début qu'on t'offre et que tu vas étoffer avec ton argent. Donc c'est plutôt un free to start.
Tu vas pouvoir ramener les persos un par un. Il me semble que c'est 4€ le perso. Et tu peux acheter un pack avec le mode histoire, un pack avec juste les garçons, un pack avec juste les filles ou les persos à l'unité. Mais du coup, pour des joueurs un peu qui vont jouer 1, 2, 3 persos en ligne, pour 15€ par exemple, ça peut être une occasion d'essayer. Et c'est vachement plus intéressant que le système de remboursement de Steam, parce qu'en 2 heures, t'as pas le temps de juger si un jeu il est bon ou pas. Parce que quand tu achètes un jeu sur Steam, avant 2 heures de jeu, tu peux te le faire rembourser. Là, tu as vraiment l'occasion de tester le jeu en ligne, pousser un petit peu les persos. Si ça te plaît, investir un petit peu, quitte à, voilà, dans 6 mois, 1 an, le prendre quand il y aura enfin une solde décente. Et...
Tu peux fractionner ton achat, en fait. Oui, ça permet aussi à des gens...
Le jeu en crédit.
Pas forcément... Ouais, non, mais... Sauf qu'ils ont, je pense, intelligemment joué le coup, même si d'apparence, ça fait vraiment pute de sortir d'abord le gros pack... À quasiment 100 balles, comme on disait, pour finalement remettre derrière quelque chose de gratos. En fait, ils ont suscité l'envie, ils ont montré que leur produit était cher, et qu'est-ce que tu fais après que tu as attiré le chaland en mettant de la valeur sur ton produit? C'est de dire, bah allez, vas-y, t'as la base gratos.
Si tu sais que t'as tes gros acheteurs, après c'est souvent comme ça sur les jeux vidéo, c'est que t'as tes premiers acheteurs sur les premières semaines. Et ensuite, ça se vend plus trop, parce que ceux qui le voulaient l'ont pris. Du coup, derrière, tu ramasses ceux qui éventuellement veulent essayer, ou sur un conseil de quelqu'un qui a bien aimé, en disant, prends la version free to start, et puis tu verras si ça te plaît, on continuera à jouer ensemble.
Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un modèle super intéressant pour le jeu de combat, en fait. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus, parce que c'est super pertinent, finalement. On est comme sur tous ces free-to-play à héros, à personnages à héros, où c'est juste, à un moment, tu vois un personnage qui te fait envie, ça va te faire revenir sur le jeu, ça va te faire, une fois peut-être, mettre un tout petit peu d'argent pour l'avoir directement. Et Killer Instinct avait essayé dans des conditions assez foireuses, en fait, il y a des années, parce qu'on le prend toujours comme modèle du test comme ça, qui n'a pas trop marché. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il était free-to-play uniquement sur le Windows Store. Il n'était même pas sorti sur Steam. Il fallait Windows 10 à l'époque et jouer à travers le Windows Store. Et tu te fermais à un pool de joueurs monumental. J'aimerais bien que DOA6, qui sort à temps, puisse pousser un peu, qu'on montre que ce modèle peut être viable. En tout cas, ce serait vraiment agréable, je pense.
Non, ouais, peut-être. Why not ? Il y a d'autres jeux qui le font et qui gagnent bien leur vie. On pense à des Fortnite, à des Apex en ce moment, ou des... Voilà, quoique Fortnite, il n'y a pas de héros, donc c'est plutôt Apex qui fonctionne plutôt bien.
Mais Fortnite, t'achètes des skins en fait qui transforment ton personnage en héros.
Voilà.
Mais en fait, ce
mais là, on parle de héros.
Oui, mais ce modèle-là, il ne fonctionne pas, parce qu'on a eu Soul Calibur en version free-to-play. On a eu Tekken Revolution.
Mais est-ce qu'ils sont sortis en Occident
Bien sûr, ils étaient disponibles. Peut-être pas Soul Calibur, il me semble peut-être que Soul Calibur, oui. En tout cas, Tekken Revolution, oui. Et je ne dis pas que ça ne marchait pas ou que ça marchait mal. Mais Tekken Revolution, lui, il se jouait plus sur le fait qu'il fallait payer pour jouer. En fait, c'était une machine d'arcade à la maison, en fait.
Très bien.
Avec quelques parties gratuites.
En tout cas, merci. Prosk, c'était Dead or Alive 6. Restez connectés sur le web pour avoir plus d'informations sur les prochains trucs que vous devrez acheter sur votre jeu en dehors du Season Pass. DLC Time Legacy, il y a beaucoup de DLC. On en parlait là pour Dead or Alive. Mais il y a beaucoup de nouveaux persos aussi dans plein de nouveaux jeux. Alors, vas-y.
Alors, on commence donc avec Fighting EX Layer, donc qui ajoute Terry Bogard et Sharon, eux aussi le 26 mars. On a eu des, en même temps que la version 2.0 du jeu, donc on a eu des petites vidéos de gameplay. Terry Bogard, gros bras, gros muscles, Rising Tackle et Power Geyser dans tes dents, donc très propre. Sharon, qui a le mérite d'avoir une petite backstory en plus pour justifier son retour. Gameplay au flingue et shop spé. Donc voilà, très très propre, encore du travail de qualité que vous n'achèterez pas. Voilà, on va passer. Un autre jeu que vous ne jouez pas, Dissidia Final Fantasy, qui lui aussi vient de sortir donc une version free-to-play appelée NT, vient d'ajouter Xenos Yaegalvus, le nouveau personnage de Final Fantasy XIV de l'extension Stormblood, donc qui était, je crois, le méchant principal. Donc c'est un personnage qui a été ajouté au-delà du Season Pass, en fait. Il sera disponible à partir du 11 avril.
Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Dissidia NT qui vient de sortir en free-to-play, je l'ai réinstallé pour lui redonner une chance. Et c'est toujours un jeu de merde. J'ai toujours pas envie de jouer.
Même gratuit, c'est nul.
Et je regrette pas de l'avoir acheté, du coup.
Ouais, moi, j'ai pas aimé. J'avais testé à l'époque au Japon. J'avais mis 100 yens. J'ai fait une partie. J'ai tapé la machine pour qu'elle me rende mes sous. Donc, non, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup, mais j'aime bien Final Fantasy. Donc, voilà. Je suis un peu. Ensuite, Broala, lui, ajoute Hellboy, Nimue, Bendamio et Gru à Gash en avril. Donc, clairement, l'intérêt se place sur Hellboy, qui donc a un film à vendre dans pas longtemps.
C'est quoi le jeu, là? Parce que j'ai pas compris.
Brawlhalla. C'est un espèce de Smash Bros.
Brawlhalla. Ah, très bien.
Ouais, Brawlhalla, comme vous voulez.
Ouais.
BlazBlue Cross Tag Battle, lui, donc, a eu sa cinquième licence Arcana Earth. Et donc, c'est Earth Aino qui a été ajouté. Une petite vidéo de gameplay pour tous les loli lovers. Mortal Kombat 11, donc là aussi, on a eu sa pelletée de nouveaux persos. Les derniers en date, Noob Saibot et Chang Soon, qui a la particularité d'être l'acteur des premiers films. Comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus.
T'as encore coupé, Legacy?
Non, je n'ai pas coupé, j'ai fait exprès.
Pardon.
Comment il s'appelle l'acteur qui était dans le film sur qui ils ont pris le visage? On ne se rappelle plus, il veut ton âme. Acheter, de toute façon, vous allez payer. Là aussi, on parle de Dead or Alive, mais on ne se plaint pas de Mortal Kombat, qui est une plus grosse arnaque. Hein. Le jeu n'est pas sorti, on annonce déjà les persos DLC.
Oui, je ne comprends pas ce procès qu'on fait à Mortal Kombat pour ça, qu'on aurait pu le faire à beaucoup d'autres.
Oui, mais Mortal Kombat, c'est les jeux NRS en particulier.
Mortal Kombat précommande est déjà à 43€, si tu veux, contrairement à Dead or Alive, qui est facilement...
Oui, mais t'as quoi dans le jeu de base? Il te manque tellement de persos.
Ouais. Et c'est vrai, j'ai pas beaucoup suivi à ce niveau-là.
Déjà, il faut que tu pré-order pour avoir, pour avoir Shao Kahn.
Bah, comme Phase 4 et Neo Tengu dans Dead or Alive, ouais.
Ouais, ouais, non, mais le truc, c'est que autant je comprends la politique de vouloir vendre des jeux quand, quand t'es Tecmo Koei et que le jeu se vend pas à des millions, mais ce truc de vendre des... Tu sais que le jeu va se vendre par millions et forcé comme ça, plus le Season Pass, t'annonces des Season Pass, c'est une politique qui n'est pas que Mortal Kombat, mais bon, c'est franchement eux les rois du game. On enchaîne sur Brawlout, donc qui invite lui le héros de Dead Cell, donc un petit jeu français, avec le stage. Donc ça arrive avec la version 2.0. Avec la version 2.0. Ensuite, Soul Calibur 6, donc là, ce sera le personnage de Amy, celle qui accompagne Raphaël, donc la petite vampire, qui arrive elle aussi, encore une fois, le 26 mars. Tout sort le 26 mars. On termine avec Dragon Ball Xenoverse 2, qui lui aussi, en parlant de version free-to-play, vient de sortir la version light du jeu, donc qui permet de pouvoir tester le jeu gratuitement sur vos consoles PS4 et Xbox One.
Ça fait beaucoup de jeux là. Hein. Moi, j'avais pas noté que t'allais nous parler d'autant de jeux que ça. Les gars, si vous la sentez, les mecs, la banane à côté. On avait noté 4 jeux, il nous a sorti tout le catalogue.
Bon, bah, Jump Force rajoute Seto Kaiba. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire?
Rien.
Je terminais. Hein.
Ah, ok, t'as pas parlé de Dragon Ball Fighterz par exemple.
Ah, bah oui, bah tu me coupes aussi.
Mais non, je te coupe pas.
Donc,
c'était le dernier, l'autre.
Ah, mais parce que j'ai oublié. Donc, Dragon Ball Fighterz, oui, donc, il va ajouter.
Un Goku.
Kid Goku, voilà. Qui n'a rien à voir avec les autres Goku. Je le rappelle, hein, c'est Kid Goku, c'est normal. Ils ont fait un mélange des deux, c'est-à-dire qu'ils ont pris Kid Goku, donc de Dragon Ball GT, mais en lui mettant le Nianbo de Dragon Ball original.
Le
donc,
bâton magique. Hein.
Les vrais, ils savent de quoi je parle.
Écoute, on s'adresse à un large public. Le bâton magique rouge.
Donc, le bâton magique sur Kid Goku. Donc, il aura vraiment des attaques spécifiques à Kid Goku. Donc, la transformation en SSJ3, le Genki Dama aussi, mais qui sera différent de base Goku, qui lui était une level 3 qui ne bougeait pas. Hâte de savoir qui sera le deuxième perso. Et un gros chèh à tous ceux qui disaient qu'il n'y aura pas de GT dans Dragon Ball FighterZ.
Ouais.
Ainsi qu'un patch de plus de 1200 lignes qui sera le seul patch de l'année. On va pas revenir dessus, mais ça change beaucoup de choses et principalement plus de buffs que de nerfs.
Très bien. A priori, c'est plutôt le plus de buffs que de nerfs. C'est a priori la stratégie qui est privilégiée par les joueurs. À chaque fois, ils en ont marre de voir leur perso nerfé. Ils préféraient que les autres montent un petit peu. Voilà.
Oui, mais de toute façon, c'est l'équilibrage par le haut, voilà, tout simplement.
C'est le nivellement par le haut.
Voilà. Alors que c'est souvent par le bas.
Ouais, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est super chiant. Une fois que tu as nerfé tout le monde, les persos n'ont plus d'options. Et...
En fait, c'est que quand tu nerfes un personnage, c'est un personnage qui était juste en dessous qui, d'un seul coup, va devenir fort, en fait. Mm. Tu peux pas nerfer parce qu'il y aura toujours un truc qui sera à faire. Si, en fait, si tu baisses quelqu'un, il y a quelqu'un qui était en dessous, d'un seul coup, qui va remonter parce que lui, il n'a pas été touché.
Ah oui, il remonte.
Il remonte obligatoirement. C'est comme.
De manière relative. Mais pas ces mécaniques qui changent pour le rendre plus fort.
Non, c'est si tout le monde est broken, personne n'est broken. Voilà. Simplement.
Tout à fait. En tout cas, bah, merci Legacy. J'espère que vous, chers auditeurs, pris des notes. Il y a eu beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup de jeux. On va peut-être prendre un peu de temps pour parler de Stadia. Tu voulais nous en parler, Legacy?
Oui, bah, très rapidement, le nouveau projet de Google, je sais que ce n'est pas forcément notre cœur de cible, même notre sujet de prédilection, mais il y a quelqu'un chez Google qui a une phrase très importante, notamment sur notre passion, c'est qu'il a dit qu'il y avait donc chez Google en développement des jeux de combat. Alors, on va replacer déjà qu'est-ce que Stadia. Donc, c'est une console, un périphérique créé par Google permettant de pouvoir jouer à des jeux vidéo avec des graphismes plus puissants qu'une Xbox One X. Hein. Donc, on a parlé de 4K, HDR, 60 FPS. Voilà, tout ça, c'est des très beaux termes pour dire que vous allez en prendre plein la mirette. Mais le catch, c'est que tout ça, ce sera en streaming.
Donc, oui, donc il n'y a pas de console, il n'y a pas de
matos. C'est pas périphérique. Hein.
Il n'y a pas de périphérique. Hein. Ils ont juste sorti éventuellement une manette pour si vous n'en avez pas chez vous déjà.
D'accord, vraiment à la Shadow. Ok. Moi, j'avais compris qu'il y avait au moins un périphérique. C'est ce que parlaient les organisateurs de tournois. C'est qu'il fallait prendre un périphérique, tout ça. Donc, ok. Donc, c'est vraiment comme Shadow, un portail à aller ouvrir, en fait.
Exactement.
C'est surtout que le périphérique dont ils parlent, la manette en question, eux, ils la mettent en avant parce qu'elle est connectée Wi-Fi et qu'en fait elle permet de passer de façon ce qu'ils appellent seamless d'un périphérique à l'autre. C'est-à-dire que je peux passer de ma télé à mon petit écran de tablette quasiment
Shadow.
Instantanément. Voilà, ils sont dans... mais en fait c'est le périphérique qui te trimballe d'un périphérique à l'autre, puisque c'est le périphérique qui est le lien avec le cloud. Et leur modèle là-dessus, d'un point de vue technique, effectivement, ça s'approche de Shadow, de toutes ces technologies-là. Alors évidemment, on sait que Google, bah, c'est la grosse machine de guerre, donc on se dit, ouais, c'est super, ils ont vraiment un truc complètement gueudin. Mais ça pose quand même pas mal de questions sur tout ce qui est infrastructure autre que Google. Par exemple, les FAI qui vont voir une montée en charge astronomique de la charge réseau, parce qu'eux, ils préconisent 25 mots seconde pour que ça tourne bien sur un équivalent, donc ce que tu disais, 4K HDR, 60 fps. Sauf que, pour vous donner une idée, hein, c'est la même chose que regarder du Netflix en 4K. Donc ça nécessite une bonne 4G ou de la fibre. C'est pas forcément rarissime. En VDSL 2, vous pouvez avoir ce débit-là. Mais ça veut dire que votre opérateur, si tout le monde tourne sur ce truc-là, il va avoir une énorme quantité de data qui est exclusive à Google, puisque dans leur schéma, ils ont fait une présentation là-dessus, il y a des vidéos qui tournent, je vous laisserai rechercher. Ils montrent qu'ils ont vraiment un tunneling de transit d'infos pour... Alors eux, ils mettent ça en avant comme ça garantit la qualité de service ou autre. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est un emprisonnement complet du faisceau pour qu'ils aient le contrôle total là-dessus.
Ouais, c'est encore pas une console de gilet jaune, quoi. Si tu veux y jouer, t'habites à Paris.
ça dépend. Parce qu'on peut parler des méthodes qu'ils proposent, eux, pour optimiser le trafic ou autre. De toute façon, ils ont pas de démo, ils ont rien qui tourne, mais c'est vraiment le modèle économique. Et aussi tout ce qui tourne autour du streaming, parce que c'est aussi quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant, c'est le fait que t'es dans ta partie, tu vas pouvoir streamer, ils ont tout un système d'interface, voir si tu fais du jeu en équipe, il y a des multi-écrans, enfin il y a vraiment des setups...
Comme Google est aussi YouTube, ça leur permet de remettre en avant YouTube Gaming qui se fait bouffer par Twitch, et donc du coup, eux, ils récupèrent ton flux, le flux que t'es censé voir chez toi, bah, ils le dupliquent et ils l'envoient sur ton truc de streaming... Voilà. Après, ils n'ont rien inventé. Le jeu en streaming, ça existe déjà. Il y a Shadow qui fait du PC virtualisé. Donc, eux, c'est pas un service de jeu, Shadow. Alors, ils mettent beaucoup en avant le gaming, Shadow, parce que...
c'est un angle qui marche.
Parce que c'est l'angle qui marche, parce que c'est aujourd'hui une des seules applications grand public qui nécessite vraiment de la puissance de PC, parce que sinon, aujourd'hui, un ordinateur, ça sert à aller sur Internet et à faire 2-3 fichiers Excel. Après, il y a toujours ceux qui font du Photoshop, etc., et de la vidéo, mais là, on est plus dans un usage professionnel. Mais voilà, c'est le gaming, c'est pour le grand public, pour les masses, c'est le truc qui justifie le fait que tu aies besoin de puissance et que donc, de la dématérialisation, de la virtualisation, ça te permet de profiter d'une grosse machine sans avoir à débourser 1000 euros. Tu débourses une petite somme par mois. Pour revenir sur Stadia n'a pas présenté, donc Google n'a pas présenté un modèle économique, ils ont présenté une plateforme en invitant les développeurs à venir développer dessus, en disant voilà notre plateforme, n'hésitez pas à venir développer pour, c'est très rapide, vous pouvez... transformer des jeux PC qui existent déjà, vous pouvez rapidement les adapter sur Stadia. Le modèle économique, lui, je pense, viendra plus tard. Et un des enjeux majeurs qu'on aura là-dessus, c'est aujourd'hui les services de streaming qui existent, parce qu'ils sont déjà accessibles pour vous, hein, via votre opérateur, ça existe déjà, via d'autres offres, ça existe déjà, vous pouvez faire déjà du gaming sans console avec une manette directement sur votre télé ou votre PC. Même PlayStation le fait, vous pouvez jouer à des jeux PlayStation sur votre PC en streaming. Le modèle économique, donc du coup, dépendra beaucoup du catalogue que Stadia pourra mettre en avant. Et s'ils mettent un catalogue de jeux récents, ce ne sera pas un modèle à l'abonnement, puisque les éditeurs ne seront pas d'accord pour que dans un abonnement à 10-15 euros par mois, tu joues au dernier Assassin's Creed, tu joues au dernier jeu qui vient de sortir. Donc là, je pense qu'on sera plutôt sur un modèle à la Steam où tu achèteras tes jeux one-shot, mais qui te permettra de jouer sans un PC, puissant.
Et après, viens, pour revenir sur ce que je disais, c'est que... Eux, ils ont bien vu qu'un des secteurs qui marchait le mieux, donc, bah, c'était forcément toujours l'e-sport, etc. Donc, ils ont dit, on a des jeux de combat en préparation. Donc, qui dit jeu de combat, moi déjà, il ne va pas falloir être impatient. Je pense que ça va être un jeu type Smash. Voilà. C'est des jeux qui ont plus de portée que nos jeux à nous. Et que de toute façon, quand on leur explique, parce qu'il y a quelqu'un qui a expliqué au mec de Google que les jeux de combat, comme le manga que je vous ai parlé au dernier podcast, ça se joue à la frame, le mec de Google lui a répondu, non mais les joueurs se feront avec, avec une latence de je crois que c'était de 25 ms. Donc non, c'est pas possible.
C'est pas possible, non.
C'est pas possible, sachant qu'il y a une latence de 25 ms, tu rajoutes ta télé, tu rajoutes le truc. Bon, bref, c'est bien pour des jeux type peut-être Exploration, Enigme ou des choses comme ça, des jeux un peu plus classiques, même Assassin's Creed à la limite, comme tu disais, mais pour un jeu de combat, Stadia, c'est... Je sais qu'ils ont l'ambition, mais il va pas falloir compter dessus, même si prendre la Google Money me semble être intéressant au début.
Voilà. Après, tu as des jeux qui sont faits pour jouer justement avec la latence. Le jeu de Nintendo, comment il s'appelle, avec les longs points qui mettent une seconde avant d'arriver au perso.
Ah non, Arms, si t'as du lag, c'est horrible. Hein.
Bah, c'est plutôt un jeu qui est fait pour, en fait. Ils ont justement pensé ces longs déplacements de bras justement pour compenser le lag entre les joueurs.
Oui, il y a du bon maquillage, mais bon...
C'est l'idée de base. Hein. Après, est-ce que ça fonctionne vraiment? Mais c'était en tout cas leur idée de base. Voilà. On s'est tout dit sur Stadia?
Oui. Bah, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Allez, bah, après, juste terminer là-dessus, il ne faut pas être... comment dire, c'est comme Amazon qui rachète Twitch. En gros, eux, ce qu'ils veulent, c'est installer des solutions serveurs, c'est installer toute leur démarche derrière en faisant passer ça pour du gaming. Donc, en gros, c'est qu'une pancarte.
On verra. Voilà. Allez, petit jingle, c'est Street Fighter X3 pour introduire le round 2. Round 2. Alors, ce que je vous propose, on a deux chroniques. La première, c'est une chronique qui a été enregistrée par toi, Legacy. Tu étais là, puisque tu étais présent. Il y avait Nathan et il y avait... FQPH et Jérôme de, rappelle-moi, Legacy
Cap Games.
De Cap Games, qui parle de l'adaptative contrôleur de Microsoft.
C'est ça, voilà. En fait, la discussion se porte sur les moyens qu'ont les personnes à handicap physique pour pouvoir accéder aux jeux vidéo et notamment l'angle du jeu de combat, en fait. Donc, c'est une petite discussion d'une dizaine de minutes, donc effectivement, avec Aline qui. Nous explique...
Il va spoiler.
De quoi?
Tu vas spoiler.
Non. En fait, je fais un sommaire très rapide. J'explique ce qu'on va entendre. C'est qu'il explique donc, comment elle a pu tester donc, l'adaptative contrôleur de Microsoft. Et Jérôme donc, de Cap Games, qui est une association qui s'occupe de la question du handicap dans le jeu vidéo, nous explique lui son point de vue et ce qu'il en a pensé.
Très bien. Allez, on met lecture.
Et bonjour Aline.
Bonjour Nathan.
Ça va bien?
Eh ben oui, écoute, ça va.
Ça fait un moment qu'on t'a pas entendu dans les podcasts de Bagro Point.
Ouais, oui, ça fait un bon bout de temps, ouais, effectivement.
Ah, la vie ne nous épargne rien. Et tu n'es pas venu seul aujourd'hui, il y a Jérôme qui est avec toi. Bonjour Jérôme.
Salut Nathan.
Eh ben, ça va bien toi?
Écoute, jusque-là, ça va bien.
Ok, alors vous êtes venus, vous êtes jusque-là, c'est déjà bien. Vous êtes venus tous les deux pour nous parler de quelque chose et vous êtes venus nous parler d'une manette. Alors, nous, dans Bagro Point, on est surtout dans le jeu de baston, donc on connaît soit les sticks arcade, soit les manettes, on va dire, traditionnelles. Et là, vous êtes venu nous parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir.
Oui, on est venu parler du XAC, ou en fait Xbox Adaptateur Controller. Donc, je ne sais pas si certains l'appellent XAC, mais moi non. Donc, le XAC, bah, Jérôme, si tu veux nous en parler. Et puis, parce qu'il faut dire que Jérôme, quand même, si tu veux bien nous dire d'où tu viens, quand même qu'on comprenne, tu viens de Cap Game. Donc vas-y, je te laisse nous dire ça.
Ok, alors effectivement, je viens d'une association qui s'appelle Cap Game, qui s'intéresse à l'accessibilité dans les jeux vidéo au sens large du terme. Donc c'est une association qui existe depuis 2013 et puis là qui travaille pas mal autour de ce périphérique un peu particulier qui est le Xbox Adaptive Controller, effectivement. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, ce controller? C'est que contrairement aux autres manettes et sticks qu'on peut connaître, il n'y a quasiment pas de bouton dessus, il n'y a quasiment pas de moyen d'interagir dessus. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une manette sans bouton et sans stick, et là je réponds mais c'est génial en fait, parce que la particularité de ce dispositif, c'est qu'il va avoir tout un tas de branchements, de prises sur lesquelles on va pouvoir mettre ses propres boutons et ses propres sticks. Ça veut dire que par exemple si on a des problématiques de tenue d'une manette standard, ou que les boutons ne sont pas assez gros parce qu'on n'a pas suffisamment de précision dans les mouvements pour pouvoir utiliser des boutons de taille standard, eh bien, on va pouvoir brancher nos propres boutons de taille un petit peu plus importante ou placer à des endroits qui sont plus confortables pour nous et du coup se faire une configuration un petit peu personnalisée.
D'accord, alors juste pour que les gens qui nous écoutent en audio, on va dire, se fassent une petite idée mentale dans leur tête, ça ressemble à une espèce de grande plaque de cuisson. On va dire ça comme ça.
Moi, c'est plat. Moi, j'ai envie de dire, ça ressemble plus à ce qui servait pour DJ Hero. Ça va parler aux joueurs, ça.
DJ Hero, ah, moi, je vois pas du tout, alors que... Bref. Donc, pour donner une idée, c'est une plaque sur laquelle il y a deux très gros boutons, c'est bien ça, qui prennent quasiment les trois quarts, en fait, de la place. Donc, vraiment des gros boutons. Sur la gauche, on peut voir qu'il y a une croix directionnelle, donc une très grosse croix, donc pour faciliter l'utilisation de la croix en général. Par contre, il n'y a pas les fameux joysticks qu'on a l'habitude de voir. Et ça fait... Les joysticks font donc... Comme tu disais, Jérôme, partie en fait des accessoires que tu vas brancher à l'extérieur, c'est ça ?
Alors ouais, effectivement, il y a deux tendances d'identification, de reconnaissance de cette manette. Hein. Il y a les plaques de cuisson d'un côté et la platine de DJ de l'autre. Voilà. Donc ça, on ne sait pas, c'est un peu comme pain au chocolat sur la platine.
J'avoue, ça peut aussi être effectivement une platine, une double platine de DJ, si on veut, effectivement.
Donc, on pourra faire un hashtag pour savoir ce que les gens pensent sur Twitter et puis voter pour métaphore préférée. Pour répondre à ta question quand même, effectivement, j'étais un petit peu dur tout à l'heure en disant qu'il n'y avait absolument pas de boutons. Il y en a, ils sont au nombre de deux, ils sont gros. Effectivement, pour proposer un minimum de capacité, juste de configurer dans le système d'exploitation qu'on ne soit pas complètement tout nu, et une grosse croix directionnelle, là encore, pour pouvoir se déplacer à l'intérieur. Et tous les autres boutons classiques qu'on trouve sur une manette d'Xbox, c'est-à-dire les quatre boutons en façade et puis les quatre gâchettes, plus les deux sticks, sont absents et complètement remplaçables par soit une des prises jack qu'il y a à l'arrière, sur la tranche arrière de cette manette, soit sur l'une des deux prises USB qui existent sur les côtés de cette manette. Donc sur les prises USB, on peut brancher par exemple un joystick d'une marque très connue qui fait des joysticks, et puis remplacer de manière complètement transparente l'usage d'un stick gauche ou d'un stick droit de la manette standard.
Genre, ça peut prendre la forme, par exemple, d'une Wiimote, par exemple, que tu pourrais brancher, un truc dans le genre, avec un truc que tu prends en main tout seul, individuellement, avec un joystick au milieu, par exemple.
Ouais, carrément. Alors, y a le fait que ça soit une connectique standard, que ce soit sur l'arrière en jack ou sur les côtés en USB, fait que on peut brancher presque tout et n'importe quoi dessus, que ce soit des matériels qui existent par ailleurs, ou alors de configurer son propre dispositif, pourquoi pas, en étant un petit peu bidouilleur, un petit peu électronicien, un petit peu inventif, on peut arriver à recréer des joysticks qui auraient cette connectique standard et qui pourraient s'interfacer avec l'Oxac.
C'est vachement impressionnant quand on regarde justement le périphérique, donc de la plaque de cuisson. Il y a quelque chose comme presque plus d'une dizaine de ports sur la façade. Et puis ça te permet de configurer des trucs aussi variés carrément que ne serait-ce les directions de la croix directionnelle. Genre individuellement, chaque direction, quoi.
Exactement. Et de mémoire, je crois qu'il y a 18 ou 19 prises jack qui couvrent tous les boutons, plus effectivement la croix multidirectionnelle. Il y a également deux prises jack qui permettent d'envoyer du signal analogique, donc de remplacer des sticks aussi sur des choses qui ne seraient pas de l'USB. Donc c'est vraiment très très complet.
C'est assez, si c'est du jack comme ça, c'est un peu low-tech en fait comme solution si on y réfléchit, non ? Parce que du jack à la base, ce n'est pas un truc qu'on utilise, c'est un truc qu'on utilise pour de l'audio.
Donc... Effectivement, le jack en audio, c'est cheap parce que ça correspond à un signal mono et le mono, c'est triste. N'empêche que quand on s'adresse quand on prend, on remet en contexte et qu'on voit que c'est pour remplacer du bouton, le bouton c'est quoi ? C'est un interrupteur comme pour allumer la lumière dans une pièce, et c'est soit allumé, soit éteint. Donc il y a juste besoin de deux fils, c'est-à-dire ce que peut transporter un jack mono, pour avoir l'équivalent. Donc remplacer un bouton par une prise jack, un fil et un bouton au bout, c'est complètement standard, et le plus important c'est que ce standard en prise jack, c'est vraiment ce qui est utilisé depuis très longtemps dans le domaine des aides techniques pour les personnes en situation de handicap. Ça veut dire que ce matériel-là qui existe depuis tous les boutons qu'on peut trouver, par exemple pour les personnes atteintes de myopathie, vont avoir des petits contacteurs faible force qui sont reliés par un fil à leur dispositif, par exemple à leur fauteuil roulant électrique. Et bien ces contacteurs-là se terminent en prise jack. Donc c'est quelque chose de complètement standard dans l'industrie de l'aide technique aujourd'hui.
D'accord. Donc du coup, ça permet finalement de raccorder. Enfin, c'est bien parce que Microsoft, c'est, on l'a pas précisé, mais c'est Microsoft qui fait le contrôleur. Ça permet finalement de brancher des éléments qui existent déjà que des personnes handicapées auraient déjà conçu auparavant. Sauf que là, ça donne une interface qui va être reconnue par soit une Xbox, soit un PC. C'est bien ça.
Alors, c'est effectivement la grosse force de cette manette particulière. D'une part, c'est un matériel considéré, enfin faisant partie de l'offre standard Xbox, c'est-à-dire que pour la connecter une Xbox, on a juste besoin d'appuyer sur le X comme sur une manette standard et ça se connecte en 3-4 secondes. Donc c'est du matériel standard, donc il n'y a pas besoin de bidouiller, ça c'est très très confortable. Et d'autre part, ils ont eu l'intelligence de travailler dès la conception de cette manette, il y a quelques années, avec pas mal d'associations de personnes en situation de handicap et de joueurs en situation de handicap, et donc de s'imprégner finalement de la culture existante et des traditions et des normes existantes dans le domaine du handicap pour les intégrer directement à ce dispositif. Donc on a quelque chose qui est conçu vraiment de manière intelligente avec les utilisateurs finaux dès le départ. Donc on a très peu de défauts là.
Et est-ce que tu as pu voir en fait des gens jouer à des jeux de baston avec ce contrôleur? Parce que je suis curieux de savoir si c'est arrivé.
Bah, je l'ai vu rapidement, mais je crois que Aline va pouvoir en parler mieux que moi sur ce coup-là.
D'accord. Aline.
Oui, bah oui, en effet, moi j'ai pu tester le XAC justement pour par rapport à des difficultés que j'ai, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, disons des difficultés physiques au niveau musculaire, au niveau tendinite et ce genre de choses. Donc en fait, j'avais besoin de trouver un matériel adapté pour jouer aux jeux de combat, parce que là, principalement, je vais parler de Street Fighter, parce que déjà tout le monde connaît, et puis moi, c'est surtout à ça que je joue comme jeu de combat. Donc au-delà effectivement du mind game hein, qu'on connaît, bah, y a la capacité d'exécution qu'il faut avoir quand même. Donc toutes les manips à faire, évidemment, quart de cercle, les 6 boutons, les touches en simultané, tous ces trucs-là. Donc c'est assez complexe finalement, parce que quand j'ai... En fait, moi, je joue d'habitude avec une manette Ori, pour expliquer vite fait. 6 boutons façade avec la croix directionnelle inclinable pour m'aider un peu à avoir moins de crampes déjà quand je peux jouer avec mes deux mains. Le problème qui se passe à des moments, c'est que en fait, quand je suis au plus mal, je peux jouer qu'avec une main. Mmh. Donc là, c'est devenu plus compliqué. Je me suis dit, bah, très bien, je vais essayer le XAC. On m'a prêté une console, on m'a prêté un stick One Hand pour essayer avec une main, une pédale, un petit connecteur hypersensible. Très bien, donc j'essaye. Bon, pour les jeux de combat, pas top quoi. Parce que, en fait, pour ma part, en tout cas, voilà, ouais. L'expérience a été compliquée. Pour les jeux de ce type, parce que j'avais plusieurs jeux à essayer, donc Walking Simulation, des jeux de course ou des plateformeurs où il n'y a pas beaucoup de touches, en fait, ça va très bien. Vraiment, c'est même très, très agréable. Par contre, pour un jeu de combat, en fait, ça a été très vite impossible pour moi. Donc, j'ai fait appel rapidement, justement, à Jérôme et à Capgame pour m'aider à trouver quelque chose. Et j'ai essayé, personnellement, parce que là, comme ça, évidemment, le XAC tout seul, bon, bah, moi, je ne connais pas les matériels adaptés, donc je n'ai pas tout l'historique, en fait, de justement ce qui peut exister. Et on m'a conseillé très rapidement le Logitech Pro 3D, qui est en fait un manche, hein, très basiquement, avec pas mal de boutons, effectivement, dessus, pour essayer, en fait, de faire et les mouvements, en fait, avec la main, et en même temps, d'avoir accès aux touches.
Juste pour que les gens situent un petit peu, le Logitech 3D, c'est plus un manche type aviation pour les simulations d'avions ou de choses comme ça, quoi. D'accord.
Donc justement, le problème, c'est que pour un jeu de combat, les mouvements vifs, quart de cercle, les trucs, les mouvements secs, les dashs, les trucs comme ça, c'est juste vraiment injouable. Enfin, j'y arrivais un petit peu, mais c'était compliqué. Ça faisait très mal au bras, très vite, très mal à l'épaule. Donc c'était vraiment pas possible. D'autre part, en plus, pour moi, il y a une autre chose qui était assez compliquée avec le XAC, c'est l'assignation des touches. J'explique rapidement. En fait, au niveau du mappage des touches, on n'a pas la possibilité dans l'interface de mapper en appuyant directement sur la touche concernée. Du genre, j'ai mon stick, enfin mon manche, j'appuie sur le bouton 1, hop, je peux le réassigner tout de suite comme je veux. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ce qui fait que, déjà, imaginons dans un jeu, tu vas voir X, c'est égal, je sais pas, au saut, par exemple. Tu dis, OK, moi, sur mon manche, là, je veux que ça soit le bouton 1. OK, mais à quoi il correspond déjà de base, le bouton 1? Il faut le savoir. Du coup, tu sais pas si c'est A ou autre, donc tu es obligé de chercher. Après, à chaque fois, tu dois faire la correspondance du genre, bon, bah, alors X, du coup, c'est le saut. Donc, bouton 1, mais bouton 1, c'est A. Donc, il faut que je lui dise que c'est A, mais qui devient X. Enfin, au bout d'un moment, en fait, c'est compliqué, quoi. Je trouve que ça, c'est un truc qui a été compliqué pour moi. Puis finalement, donc, je me suis dit que le XAC, c'était surtout une sorte d'interface, comme on disait, une sorte de relais, en fait, quelque part, pour un matériel adapté qui existait déjà. Effectivement, que moi je connaissais pas, donc j'ai dû chercher sur internet et ailleurs. Finalement, c'est quand je suis allée à Paris Games Week où il y avait l'espace Jouer comme vous êtes avec justement Cap Game et d'autres associations pour les personnes qui ont un handicap ou que ce soit visuel ou physique. Là, j'ai trouvé finalement des solutions qui étaient plus adaptées avec par exemple Andy Gamer qui était là. Une association qui propose de transformer simplement des manettes. Finalement, j'ai, sans le XAC, trouvé des solutions qui étaient un peu plus adaptées. Par exemple, une manette transformée avec un stick, en fait, pour éviter d'utiliser la main gauche, puisque c'était ça mon problème, en fait, pour les directions. Je pouvais pas utiliser la main gauche quand j'avais très mal, donc il ne restait plus que la main droite. Donc, de mettre, par exemple, un stick inversé sur le dessous de la manette à gauche, où en fait on tient juste la manette avec la main droite et on bouge la manette donc, qui est en appui sur le stick retourné. Et c'est comme ça qu'on fait les mouvements pour après avoir accès aux autres touches, évidemment, pour faire les coups. Le problème de cette solution, c'est que je ne peux pas poser le bras, puisqu'il faut avoir le bras en l'air.
Ouais, ce que j'allais dire, ça a l'air fatigant comme idée.
Donc en fait, ce n'était pas vraiment non plus une solution pour moi. Donc au final... j'ai pas trouvé réellement mon bonheur avec le XAC, pour tout dire, parce que ce problème de manque de matériel pour moi adapté et de manque sinon de touches comme ça adéquates, pareil. Parce qu'encore une fois, il faut penser qu'effectivement, déjà, il y a les 6 boutons pour un jeu de combat, mais, et les directions assez complexes au niveau quart de cercle ou autre. Mais il y a aussi les combinaisons de touches, ce qui fait que, par exemple, ne serait-ce qu'avec le Logitech Pro 3D, donc
manche à balai,
voilà. Même comme ça, s'il y avait accès à des touches, et encore, elles n'étaient pas toutes assignables, pas toutes reconnues, puisque ce n'est pas du matériel Microsoft. Donc, même comme ça, en fait, il y avait des trucs qui étaient compliqués à faire, quoi. Donc, en gros, pour moi, ça n'a pas été une solution, le XAC, mais par contre, ça m'a permis de chercher, de rencontrer des gens et de trouver des solutions, pour l'instant, qui peuvent quand même m'aider. Puis surtout, de rencontrer d'autres personnes comme Just One Hand, qui, lui, peut jouer au jeu de combat grâce au XAC, avec d'autres systèmes. Par exemple, je ne sais plus, Jérôme, tu me diras peut-être, si tu te souviens, je suppose, comment s'appelle l'espèce de bubble là, qu'on met au niveau des pieds, en fait, la demi-sphère qui permet de faire les directions avec les jambes.
Oui, ça s'appelle le 3D Rudder.
Voilà.
C'est une petite plateforme inertielle montée sur une demi-sphère et donc ça permet de, en l'inclinant soit sur les côtés, soit d'avant en arrière, soit en rotation en parallèle au sol, d'envoyer des commandes de direction en remplacement du stick.
D'accord. Voilà.
Donc lui, il arrivait à jouer comme ça. Moi, personnellement, déjà, j'ai eu d'autres difficultés. Pareil, au niveau des jambes, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Mais c'est vrai que c'est une solution. Voilà, parfois, on peut s'adapter. Donc, je n'ai pas encore tout testé et peut-être qu'il y aura d'autres possibilités. En tout cas, lui, ça lui convient très bien. Donc, c'est plutôt prometteur pour plein de raisons, en fait. Le XAC, moi, ça n'a pas été une rencontre exceptionnelle pour moi. En tout cas, pas des solutions vraiment concrètes. Mais quand même, pour d'autres personnes, ça a été le cas. Et puis, ça fait avancer beaucoup les choses tout de même. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui n'ont pas attendu, comme je disais, le XAC pour jouer en compétition, comme Broly Legs. Là, je vais laisser Jérôme en parler parce que c'est vraiment très, très intéressant, son histoire, quoi.
Oui, effectivement. Alors, juste pour compléter le propos sur le XAC, il faut, comme tu le dis, c'est vraiment pas une solution en soi. Elle est là pour simplifier et laisser justement la porte ouverte à tout un tas de solutions qui sont à la charge, entre guillemets, cognitive des utilisateurs. C'est-à-dire que chacun va être différent, chacun va avoir ses propres difficultés, et à côté de ça, ses propres capacités. Et donc, ça va être à chacun de trouver un petit peu les parties du corps ou la configuration de jeu qui lui convient le mieux, qui est optimale, qui est la plus confortable. Et après, le XAC intervient ici pour permettre le branchement de cette configuration optimisée vers l'Xbox.
C'est un interfaçage, en fait, le XAC, ouais, finalement. Ouais. C'est une sorte d'interfaçage officiel et facile à utiliser, là où avant, il aurait fallu bidouiller en soudant des PCB Xbox ou des trucs comme ça, quoi.
C'est ça, c'est un gros hub, super, super pratique, effectivement, et qui simplifie la connexion à l'Xbox.
D'accord.
Et alors, pour le... Donc, je rebondis sur le... Ouais. Sur les compétitions, c'est vrai que depuis très longtemps, on a sur les scènes e-sportives, hein, on les appelle comme ça maintenant, des participations de joueurs en situation de handicap. Donc Brawly Legs, c'est un...
Plutôt
c'est
connu, un... Il est plutôt connu dans la scène jeu de baston, justement, parce qu'il joue avec sa bouche, si je me souviens bien.
Ouais, exactement.
Et une manette 360.
Ouais.
Et une manette complètement standard pour le coup, puisqu'il a commencé bien avant que ces solutions-là deviennent accessibles. Donc c'est un joueur de Street Fighter, si je me souviens bien, qui a des grosses contraintes physiques, hein, puisqu'il a énormément de difficultés dans les déplacements, il est en fauteuil roulant électrique, donc il a très peu de mobilité par rapport aux membres sup. Et comme tu dis, il a une manière de jouer qui consiste à utiliser la manette uniquement avec sa bouche ou avec ses joues, son menton, donc uniquement avec la face. Donc c'est assez impressionnant à voir. En plus, le mec performe. Hein,
il est très fort. Hein.
Ouais.
Il est très fort.
Donc c'est plutôt cool. Alors, il y en a d'autres un petit peu dans la lignée. On peut citer Randy Nomad Fitzgerald, qui a le même profil globalement que Brawly Legs, qui est plutôt un joueur de Call of Duty. Hein. Il y a un mode dans Call of qui est apparu grâce à son intervention auprès de ses demandes auprès des équipes de développement. Hein. C'est le mode Nomad, qui est un mode de configuration des touches qui lui permettait de passer en mode visé. Chose qu'il ne pouvait pas faire quand c'était codé en dur, en standard. Mm-hmm. Donc cette alternative maintenant lui permet de jouer, c'est pareil, donc il a une arthrogrypose, il a très peu d'amplitude, très peu de mouvement, et il performe sur un call-off. On a un autre bonhomme qui s'appelle Dayton Wills-Jones, lui qui a une amyotrophie spinale, et qui quand même avec ce lourd handicap va finir 5e de la Coupe du Monde 2017 de Killer Instinct.
Ouais, c'est pas mal.
Ça se tient. Et alors, ces gens-là, ils n'ont pas attendu que Xbox sorte une manette ou quoi. Ils se sont arrachés, ils ont trouvé des solutions par eux-mêmes pour essayer de définir une configuration dans laquelle ils pouvaient jouer et performer. Là, le gros signal ou la grosse bonne nouvelle de l'apparition de ce dispositif de chez Microsoft, c'est qu'on va enfin pouvoir, de manière complètement standard, ouvrir cette capacité d'adaptation matérielle, comme je le disais tout à l'heure, et puis aller encore plus loin dans cette optimisation de la configuration de jeu. Si j'ai par exemple que ma tête qui bouge et que je veux faire du jeu de combat, ben je vais faire en sorte d'organiser un environnement avec des contacteurs, hein, donc des boutons qui sont autour de ma tête ou sur mes joues, sur le menton, sur les lèvres, et de relier tout ça au XAC par exemple pour pouvoir jouer un jeu de baston ou n'importe quel jeu d'ailleurs. Donc c'est une grosse bouffée d'oxygène en fait, et une grosse capacité de création finalement que nous propose le XAC et la perspective surtout pour plus de joueurs en situation de handicap d'accéder aux compétitions e-sportives et de performer.
Juste parce que le temps tourne, donc on va bientôt s'arrêter, juste pour rappeler, combien il coûte le XAC actuellement ? C'est accessible ou c'est encore un petit peu cher
Alors, il y a deux points de vue. Il coûte autour de 90 euros pour répondre à la question.
Ça va encore. Pour le coup.
Les personnes qui sont habituées ou qui prennent comme référence les manettes standards qui sont à 60 euros disent que finalement c'est plus cher. Quand on est habitué, en revanche, aux tarifs qu'on connaît dans l'industrie des produits et services du monde du handicap, ça reste vraiment très peu cher. C'est vraiment un dispositif qui est hyper accessible. Alors après, il faut aussi prendre en compte dans l'ardoise le fait que ça ne marche pas tout seul et qu'il faut rajouter à cette addition tous les contacteurs et tous les dispositifs qu'on va mettre autour, évidemment.
Après, c'est des dispositifs standards et il y en a qui peuvent être bricolés. Et puis, j'imagine que des gens qui auraient besoin d'avoir des références peuvent vous contacter, par exemple, à Capgame.
Carrément, il y a plein de ressources partout. Nous, pour faire vraiment brutal, on a, la première fois qu'on a utilisé le XAC sur FIFA, on a joué avec des fils dénudés. Juste comme si on démarrait une bagnole
dans un film.
Voilà. C'est ça. Oui, avec un peu de bidouille ou des contacts ou aller chercher sur Internet, il y a plein de solutions existantes.
Ça marche. Juste, je viens de voir en fouillant un peu sur Internet, apparemment le XAC fonctionne même avec des adaptateurs qui permettent de jouer sur d'autres consoles. J'ai cru voir ça, j'ai vu une photo du XAC branché à une Switch.
C'est Microsoft qui a dit qu'il ne voulait pas verrouiller en fait cet adaptateur pour leur console en disant regardez, nous on est la console pour que les handicapés et les personnes en difficulté puissent jouer. Ils ont vraiment fait ça dans une philosophie de ouvrir le jeu au maximum de gens sur le maximum de plateformes, et ça va avec leur philosophie actuelle de ouvrir leur Xbox Game Pass sur d'autres périphériques.
Ouais.
C'est vraiment proposer leur solution sur le maximum de plateformes.
Donc pour rappel, c'est d'abord pour la Xbox One et le PC, mais avec des adaptateurs, j'imagine que nos auditeurs utilisent parfois des adaptateurs, par exemple de la PS3 ou de la Xbox 360 vers la PS4. A priori, ça peut marcher avec, en tout cas avec la Switch aussi, apparemment ça marche. Donc il y a probablement des difficultés de configuration, comme le détaillait Aline tout à l'heure, mais théoriquement, en tout cas, une fois que c'est configuré et qu'on a tout son matos qui est prêt sur le XAC, on peut actuellement le brancher sur presque toutes les consoles, quoi.
Oui, c'est un peu l'espoir qu'on tisse en secret. Nous, on l'a branché même sur une PS4, mais avec des matériels intermédiaires qu'on a l'habitude d'utiliser. Il s'agit notamment d'un petit boîtier qui s'appelle le Titan 2. Et ça a permis de faire croire finalement à la PS4 qu'on branchait une manette de PS4 dessus.
D'accord.
Ce qui serait cool, c'est que effectivement Sony se ouvre finalement son hardware et permette au XAC de se connecter dessus. Bon, on verra ce que les mois prochains racontent.
Ok, alors juste pour balancer quelques liens ou choses comme ça, donc Jérôme, tu fais partie donc de Capgame, tu nous l'as dit, vous avez un site internet, une page Facebook, un endroit où on peut vous contacter ?
On a les trois, on a un site où vous pouvez nous trouver sur www.capgame.fr, on a un Twitter, c'est @capgame_France, et on a un groupe Facebook, donc Capgame. C'est un groupe privé, il n'y a qu'à demander l'inscription et on l'accorde systématiquement. Okay.
Et juste pour être clair, parce que j'imagine qu'on a des auditeurs qui connaissent peut-être des gens qui ont des difficultés physiques, on pense parfois handicap, genre fauteuil ou autre, mais il y a des gens qui peuvent paraître parfaitement normaux et qui ont des difficultés, comme disait Aline par exemple, avec des tendinites ou des choses comme ça. Ces gens-là aussi peuvent vous contacter pour se renseigner, avoir un coup de main. C'est pas juste du handicap lourd avec lequel vous travaillez.
Non, on a le groupe qui regroupe 600 personnes aujourd'hui, on a tous les profils. Effectivement, les handicaps qu'on appelle invisibles, c'est 80% de la population en situation de handicap, donc c'est extrêmement, extrêmement fréquent. Et nous, on n'est pas spécialisé sur un profil particulier, on a vraiment des solutions génériques, on essaie de répondre à tout le monde.
Ok, vous êtes en région parisienne ou vous êtes sur toute la France?
On est plutôt sur toute la France. On a des gens dans le nord, on a des gens vers Bordeaux, un peu sur Montpellier bientôt, et pas mal sur Paris, effectivement.
Ok, ça marche. Bon, et écoutez, merci à tous pour les deux, tous les deux
merci
pour ces informations. Et puis, pour ceux qui veulent, sont dans une situation où ils auraient besoin donc d'aide, je vous invite à aller voir le site donc de Capgame, capgame.fr. Merci à tous les deux, à la prochaine.
Merci.
Merci.
Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Merci encore à Nathan, FQPH, Jérôme, et puis merci à toi, Legacy, puisque tu étais présent à ce moment-là, de nous avoir laissé cette petite chronique en cadeau. On passe tout de suite à la deuxième chronique de ce podcast. Et là, je prends mon ton solennel. Que tombe la colère de la société par la voix du procureur général de la République française, Flashou.
Merci, votre honneur. Piffeur, piffeuse, fighter, fighteuse, chère Chine, cher Japon, cher Cameroun, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Les moins incultes parmi vous auront compris au ton de cette introduction que c'est sans vergogne que je vais paraphraser l'homme que l'on cite dès lors qu'on a un problème à régler avec l'humour. Je veux bien sûr parler de Pierre Desproges, mon main dans le registre du beau verbe depuis le 1. Et si je parodie sans frémir son énorme verve, c'est pour poser cette double question. Peut-on jouer avec tout le monde? Peut-on jouer à tout? Alors, pour ce qui est de peut-on jouer à tout, je répondrai oui, sans hésiter, et je pense parler aussi au nom de mes corps légionnaires en subversion podcastique. Car s'il est vrai que le jeu de baston, quel qu'il soit, peut nous apporter le frisson, l'amusement et même parfois le rire, si on trouve dans le pire des cusso games de quoi jubiler en plaçant des loops infinies à son adversaire sans que ça ait le moindre sens, alors oui, on peut jouer à tout, et je dirais même, on doit jouer à tout. Aux jeux qu'on n'aime pas, aux séries qu'on regarde de loin, et même à Smash Bros. Regardez-les s'agiter, tous ces pro-players engoncés dans leur Street Fighter pour payer le loyer. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie. Et tout d'un coup, ça s'arrête sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et là, le geek boutonneux, le richissime collectionneur avec toutes ses bornes d'arcade. Et toi aussi, à qui je pense, le random du Stuntfest qui a cru à Capcom jusqu'au bout de la saison 4. Nous sommes tous un jour tombés sur un jeu qui nous humilie et qui nous donne envie de lâcher le stick. Alors quel autre échappatoire que de jouer à tout, sans s'enfermer dans ses ornières, poil au derrière? Donc oui, on peut jouer à tout, y compris aux trucs les plus nuls, comme par exemple le jeu qui est le grand amour du roi inamovible du salage passif ici présent, bien entendu je parle de toi Legacy. Le jeu s'appelle Nude Fighter X, un jeu serbo-polonais où le pif est roi et où les core values sont au plus bas. À la question, peut-on jouer avec tout le monde? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée de tapoter le stick. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un coffre pratiquement me met rarement en joie. Près d'un tekkeniste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'indie game assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer la présence inopportune. Attention, mesdames et messieurs les jurés, je n'ai rien contre les MVCistes. Et tous ces gens, cantonnés à leur jeu, sont des gens qui se trompent de colère. Et laissez-moi vous illustrer mon propos avec une petite anecdote. J'eus la chance de connaître ma première édition du Stunfest au temps lointain, où l'événement se déroulait dans un modeste gymnase aux fortes odeurs de chaussettes. Dieu me tripote qu'il était grisant de passer de machine en machine et de défier le premier quidam venu dans la joie et la bonne humeur, malgré la parfaite incompétence de votre serviteur dans les trois quarts des jeux. Quel n'était pas mon plaisir dès lors qu'un inconnu s'avançait à côté du siège que j'occupais et qui, sans un mot, juste par un regard et un geste vers la manette, me proposait une troublante confrontation au corps à corps dans une valse mortelle. Mais voilà que soudain mon nouvel antagoniste se montrait bien moins jovial malgré la sympathie qu'on pouvait lire sur les traits de mon doux visage de prince pirate. Ce jeune homme de type romorantin, couperosé de frais, s'installe, et déjà je sens une furieuse hargne palpiter dans son regard. Et soudain tout fut clair. Depuis 5 minutes qu'il regardait par-dessus mon épaule mon match avec le précédent joueur, il s'était senti frustré de me voir si mal jouer à son jeu du Kokoro. Et oui, mesdames et messieurs des jurys, cet homme cherchait vengeance pour l'affront que j'avais fait à son perso chéri en ne suivant pas le plan de jeu qu'il avait si durement acquis lors de très longs mois d'entraînement dans la région des 5 pics en Chine sous la grande cascade de Rosan. Sans jamais décrocher un mot, simplement en me fusillant du regard, mon adversaire me réglait mon compte avec haine, poussant l'humiliation jusqu'à continuer de frapper mon perso au sol après le chaos dans Marvel vs Capcom 2, c'est possible, pour bien me faire comprendre son mépris. De toute évidence, il voulait me faire lâcher le stick et me chasser de son précaré, et ce, malgré toutes mes tentatives pour aller dans son sens et ne plus faire n'importe quoi. Non, j'avais beau reconnaître ma médiocrité et questionner mon rival sur le chemin à suivre pour m'élever, rien à faire, il restait muet et fermé à toute tentative d'échange. Au bout d'un moment, lassé de ma ténacité, il quitta son siège sans un mot, bougonnant dans sa barbe, bien qu'il fût fort peu doté, question pilosité, et se perdit à jamais dans la foule des festivaliers wallonnés. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, voilà un homme qui se trompait de colère. Plutôt que de partager et d'échanger, son but était de tuer le bonhomme en face. Ni plaisir, ni bonne humeur, simplement la rancœur acerbe d'un homme trop mesquin pour comprendre que la baston ne s'apprécie que par le biais d'autrui et que le vrai combattant, tel Sangoku, est celui qui fait en sorte de rendre son adversaire plus fort. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Cultivez donc vos rivaux, vos combats n'en seront que plus beaux, poil au dos. Et pour finir, je voudrais conclure ma parodie avec ce troublant cri d'alarme. Les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus de World Warrior dans le monde.
Merci Flashou. J'ai envie d'applaudir, on peut applaudir tous devant nos micros?
Ouais, je peux comprendre.
C'est difficile, il faut que j'appuie, mais...
Merci, messieurs.
Merci, Flashou. Alors, on peut donner le verdict sur ton adversaire. Il est coupable d'être un connard. Merci, Flashou. C'était un super format. J'espère que, du coup, on en entendra d'autres des comme ça. Ça fait plaisir à Bagro Point d'entendre ça. Sur ce, c'est la fin du round. Deux petites interludes musicales, justement, avec du Ultimate Marvel vs Capcom 3. Round 3, c'est le quartier libre. En fin de podcast, on se détend un petit peu après tant d'informations et de chroniques qui demandaient quand même un peu de concentration. Écoutez, on va se parler un peu de ce qu'on fait en dehors du jeu de combat et on va commencer par Flashou.
Yes. Alors moi, je vais vous parler de We the Revolution, avec un magnifique accent qui n'a rien à foutre dans un jeu sur la Révolution française. Donc, c'est un jeu qui est sorti il y a une semaine à tout casser et que j'ai découvert grâce au formidable Mister MV. Évidemment, il ne saurait en être autrement.
Excuse-nous, Julien.
Désolé, bah oui. C'est un jeu qu'on pourrait, mais vraiment très loin, rapprocher de Phoenix Wright, puisque c'est un jeu de procès. On joue un juge de la Révolution qui doit, entre ses propres péripéties personnelles, essayer de mener à bien la justice durant l'époque de la Révolution. Alors, ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est que c'est historiquement assez bien foutu. Évidemment, je suis pas un spécialiste, mais pour un truc qui parle d'un sujet très franco-français, on sent que les mecs ils sont allés un peu plus loin que le cliché de la guillotine et de la fuite à Varennes. Il y a des tentatives intéressantes de mettre vraiment de la profondeur sur les personnages. Il y a des choix visuels dans les cutscenes qui ont vraiment un rendu, une gueule, une patte assez unique. Alors évidemment, c'est pas un jeu avec un gros gameplay, je vous dis, c'est de l'enquête, donc on doit sélectionner les bons éléments qui vont avec les autres, choisir les bons éléments de dialogue. Et ça construit une narration, c'est vraiment tout ce côté narratif qui est plaisant. Et puis, alors, j'en avais fait le constat, j'avais tweeté là-dessus, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a des parallèles extrêmement effrayants qui se font avec l'actualité récente. Je vais pas débattre là-dessus, c'est pas notre propos, mais c'est assez fou de voir que on se retrouve à un moment donné, par exemple, à devoir signer ou pas un officier de la garde républicaine pour savoir s'il a le droit de tirer ou pas sur la foule en cas d'émeute. Et d'avoir ça avec le lendemain, une annonce comme quoi notre président envoie l'armée contre les manifestants, ça fait très bizarre. Donc voilà, je vous le dis, je veux pas qu'on rentre dans le jugement de tout ça et tout, c'est pas le but. Mais ça montre qu'il y a une vraie profondeur dans la façon dont c'est écrit et dans la réflexion que ça peut amener derrière. Donc, With the Revolution, qui est pas très cher en plus, il est à une quinzaine, 15-20 euros sur Steam. Je vous recommande chaudement. Ça vous fera réviser vos cours de quatrième.
Et puis, un jeu où il y a le dernier boss, c'est Robespierre, c'est pas tous les jours.
C'est clair.
Et Assassin's Creed 2, le dernier boss, c'était le pape.
Ouais, mais on s'en fout, le pape.
Attends, il a quel âge le jeu? C'est bon, il y a prescription de ouf. T'as pas encore fait le 2? Écoute, le dernier boss, c'est le pape.
Putain,
voilà.
Et
tu te bats.
Le 3 directement,
tu te tapes au Vatican contre lui.
Ouais. Et les boss d'avant, c'est les soupapes, c'est...
De quoi? Le 2 ah, était bien, c'était un des derniers que j'avais bien aimé.
Ouais.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, j'ai pris la parole, en plus ça tombe bien, c'est à mon tour. En fait, j'avais noté deux trucs, mais. Legacy, t'es à jour dans Terrace House ou pas?
Moi j'en suis après l'épisode des mains.
Après l'épisode des mains, ok, très bien. Parce que je voulais dire que Terrace House était terminé pour cette saison.
Ouais, j'ai pas fini la saison encore.
Voilà, après
saison
48,
assez faible quand même, il faut se le dire.
Je pense que t'as oublié. En fait, je pense que le fait qu'elle soit découpée en 4 ou 5 parties assez longues entre les moments où c'est disponible sur la plateforme font que
non.
Oublie un peu les trucs qui sont passés. Mais il y a quand même eu des personnages vraiment sympas.
En fait, moi, par exemple, je suis ça depuis le 1. Genre, la saison Hawaii, je l'ai mangé comme ça, en fait, en divisé. Et la saison Hawaii, je la trouvais déjà faible.
Saison Hawaii était faible, la saison Tokyo était bien.
La saison Tokyo, excellente. L'épisode de la viande, c'était vraiment le top. Mais la saison... déjà, ils sont trop loin, en fait. Ils sont dans le trou du cul du Japon, donc ils n'ont pas de trucs à côté. Les seuls personnages bien, c'est le chanteur. Et le meilleur couple, c'est...
Tsubasa et
voilà.
Cheyenne.
Voilà. Mais sinon, t'enlèves ça, c'est nul. L'autre avec sa moustache,
T'es le chanteur était cool. Le mec avec la moustache était cool. N'oublie pas qu'on est l'espèce de mec insupportable qui pleurait, mais tu sais, en se mettant les deux doigts sur chaque œil.
Non, mais
juste insupportable.
Poubelle.
Ouais, mais ça fait partie du plaisir de détester les gens. Comme Yui, cette dernière demoiselle, enfin, qui est rentrée.
Moi, je la joue, hein.
Ah bon?
Yui,
c'est la bad guy, hein. C'est un peu la bad guy. Moi, j'aime pas du tout. Elle est insupportable, mais heureusement, elle est là parce que bon, ça permet de détester quelqu'un, c'est important. Et donc voilà. Et je voulais faire une blague, mais j'ai peur de te spoiler.
Non, mais vas-y, je m'en fous, c'est que t'es raciste.
Je m'en fous. Je voulais vous dire comment on dit friendzone en japonais. Et je veux dire, on dit Masao. Mais voilà, quoi. Je suis Masao, avec la typographie que vous connaissez.
Et c'est très marrant parce que ce mec-là, donc, il est dans un groupe.
Il est adorable, mec.
Il se met, en fait, il la mérite pas. Grosse. J'ai rien à dire.
Je ne veux pas encore bipper. C'est elle qui ne le mérite pas.
Voilà, bien sûr, voilà, c'est ça. Je ne vais pas encore faire bipper pour ce quartier libre. Mais non, mais voilà, ce mec-là, en fait, il est dans un groupe où, en fait, le chanteur, donc celui qu'on voit parler souvent avec lui, en fait, il était dans un énorme scandale quand moi-même j'étais au Japon, où, en fait, en gros, il a pris la main dans le sac, a trompé sa femme avec une idole métisse anglo-japonaise. Et c'est, ce qui est très marrant, c'est que c'est la femme qui a tout pris, en fait. Lui, il a juste dû à s'excuser, merci, au revoir. Oui, j'ai trompé ma femme. Elle a dû se raser la tête, limite, devant les journalistes. Donc,
c'est ce que j'ai lu, parce que je me suis renseigné, parce que le mec débarque à Terrace House et les présentateurs sont « Waouh, mais c'est machin de tel groupe, c'est ouf, nanana ». Et en plus, il parle d'un scandale. Je fais « Mais de quoi, hein, nous, on est tellement loin de tout ça ».
C'est ça, c'est ça.
Et donc, en fait, j'ai fait des petites recherches sur Internet. Et donc, en fait, il s'avère que donc, ce chanteur de ce groupe a une relation avec une actrice, voilà. Donc, en trompant sa femme, mais qu'à l'occasion, en fait, les gens ont découvert qu'en fait, le mec était marié.
Exactement. Ça aussi, il le cachait.
Voilà, ça aussi, il le cachait. Donc, voilà. C'était. Donc, en tout cas, Masao, qui est le bassiste de ce groupe, et apparaît dans Terrace House, parce que, voilà. Je voulais juste dire que Terrace House, c'est bien. Ça fait du bien au moral de regarder ça. Mais à côté de ça, je joue à The Division et j'ai beaucoup joué à Apex, donc des grosses périodes de loot, de loot, de loot, de loot. Et pas trop de jeux de combat. Voilà, j'ai fini pour moi. Bah vas-y, Legacy, à toi.
Bah moi, c'est complètement du jeu de combat en ce moment, DMC5.
Ouais, j'ai commencé un peu vite fait aussi, quand même.
C'est un jeu de combat, taisez-vous. C'est Itsuno, quand tu lui donnes du budget, des moyens, du temps, il te sort un bon jeu. Ce qu'on remarque, c'est que les bons DMC, les très bons DMC, sont les nombres donc impair, 1, 3, 5. Et ce jeu, bah, il fait du bien. Il fait du bien parce que les jeux, ils se prennent de plus en plus au sérieux. Ils essaient de plus en plus de se prendre pour des films. Là, on a juste trois mecs badass, dont un en chanclas, qui fracasse du démon. Ça fait du bien. C'est un jeu à prendre sur PC. Capcom nous respecte enfin sur
PS4 PC. Aussi.
Non, sur PC,
Il est bien aussi sur PS4. Hein.
Non, c'est parce que sur PS4, on n'a pas les raies du cul. Voilà.
Quoi ?
Il y a une histoire de censure.
Bien sûr, sur PS4, le jeu est censuré au niveau des raies du cul, donc c'est inadmissible.
Bon. Okay. Mais comment t'as pu faire ce jeu et passer à côté des raies du cul ? Tu t'es rendu compte qu'il manquait un truc à un moment ?
Mais en fait, j'en suis pas encore là, j'ai vraiment fait... J'ai joué 3 ou 4 heures.
Donc vous jouez sur PC... Et voilà, c'est un très grand jeu qui est vraiment bien optimisé. Capcom nous respecte. Encore une fois, on croise les doigts pour la suite des projets. Même le président de Capcom USA a lâché un Capcom is back. Donc, ce n'est pas pour rien. Ils savaient dans quelle position ils étaient. Et puis, Sekiro. Là, en ce moment, beaucoup de Sekiro. Là aussi, c'est du très, très grand. Donc, encore une fois, on va dire « Non, ça sort déjà. » Sortez-vous les doigts du cul, les gars. Moi, je ne joue pas à Fallout 76, hein. Ou à Anthem, excusez-moi, c'est Anthem maintenant qu'il faut se moquer. Cher ce qu'on payait.
Prenons quelques secondes pour rire un peu. Voilà.
Ouais, moquez-vous de rigoler, regardez-les et moquez-vous.
Ça fait du bien. Écoute, moi j'étais très déçu par Anthem. Je voulais un jeu à loot et je m'étais dit, il y a The Division qui arrive et tout. J'ai déjà fait le premier, j'ai lâché vraiment ma centaine d'heures, voire plus sur The Division. Est-ce que je retourne là-dedans? Et en fait, Anthem me séduisait par le côté gros robot machin, trop stylé. Et en fait, les avis et en fait les défauts qu'il affiche m'ont fait que non. Retournons avec un fusil.
Il y a un bug d'Anthem, moi je l'adore. Hein. C'est que des mecs en fait ont calculé que ton loot, en fait, il était correspondant à ton niveau. C'est-à-dire que tu as un haut niveau et un loot légendaire, tu vas faire une certaine somme de dégâts sur l'ennemi. Sauf qu'en fait, cette formule est tellement mal branlée que si tu es haut niveau, mais que tu prends une arme de niveau 1, tu feras plus de dégâts que la meilleure arme avec les meilleurs spells dessus qui sont aléatoires.
Incroyable. Et c'est genre en plus, enfin, je comprends même pas parce que c'est le genre de truc à pas rater quoi, quand tu fais ce genre de jeu.
Ah non, la formule dans un gacha, dans un jeu à loot, la formule de power creep, ça doit être même ta priorité avant tout.
C'est le truc à pas rater. J'avais lu aussi un titre où les mecs retiraient leur armure et avaient une meilleure défense.
Oui, non, mais... c'est ça, t'étais plus fort à poil dans Anthem. Après, l'erreur de base, c'était peut-être de le sortir en même temps qu'Apex, de toute façon, mais tout est décevant dans le jeu. Moi, j'ai fait juste la bêta avant qu'il sorte, et passer le moment où tu rentres dans ton mecha et tu t'envoles, et c'est vraiment très nerveux, très cool. Même après, en fait, voler, c'est chiant, le gameplay est pas marrant, c'est vraiment dommage.
Non, mais j'ai regardé une vidéo, je voulais qu'on me rembourse.
Très bien. Et donc du coup, Sekiro, moi je suis très envieux, hein, comme je le dis souvent, je suis très envieux des gens qui... parce que là, il y a une vraie hype sur Sekiro à chaque fois qu'un jeu From Software, j'arrive pas à le dire, From Software sort, il y a une hype et que je n'arrive pas à prendre, parce qu'en fait, j'ai jamais passé une difficulté dans un Souls ou dans un Bloodborne. Quoi. Arrivé à la première difficulté, j'y arrive pas. Et... du coup, voilà, je vous admire si vous nous écoutez, toi, Legacy. Vous arrivez à jouer à ça,
C'est un jeu de tryharder, en fait. Hein. Personne n'est bon à ce genre de jeu. Hein.
Non, c'est vraiment, ton niveau est vraiment équivalent au temps que tu investis. C'est aussi con que ça. Quoi. À force de réessayer, tu finis par comprendre. Il y a un truc qui se met en route. Et passer un très gros palier de difficulté, il y a un truc un peu plus naturel qui se met en place après. Mais il faut vouloir. Clairement, il faut vouloir, il faut avoir le temps.
Ouais, je crois que je n'ai pas cette force-là, je crois.
Je te rejoins là-dessus, pareil, hein, vraiment les trucs de très grosses difficultés comme ça, moi je reconnais que je suis une quiche là-dessus, mais parce que j'ai jamais pris le temps et fait l'effort de m'y investir, c'est exactement ce que tu disais, Prost, c'est des trucs où faut s'y mettre.
Mais faut vouloir de passer 3 heures sur les mêmes ouais, 30 mètres carrés.
C'est pas mon cas.
Ça fait un peu partie du plaisir
la satisfaction
aussi,
quand tu laves le boss.
En fait, on dit que c'est un peu masochiste, mais je pense que c'est pas du tout ça le plaisir. C'est pas de souffrir, c'est juste que
de progresser
pour y arriver. Mais tu y arrives. En fait, ce qui est rigolo après, c'est que quand tu recommences, la difficulté a disparu. Quoi. Vraiment, t'as maîtrisé un truc et c'est tellement satisfaisant d'avoir réussi. Et chaque étape du jeu est une difficulté à surmonter. Et c'est vraiment de la grosse satisfaction. Je pense que c'est vraiment ça le moteur de ce jeu.
Du coup, j'ai vu des vidéos, j'ai vu le mec parier avec son arme et tout. Je me suis dit, putain, j'ai envie d'essayer quand même, juste pour voir, mais.
Ah non, mais c'est en fait, et le jeu est très bien pensé, même c'est pareil dans les Dark Souls, par exemple, les premiers boss des Dark Souls, tu affrontes un mec dans une zone normale. D'un seul coup, le jeu te donne encore plus te donne une leçon de game design. D'un seul coup, tu affrontes des ennemis, mais en étant dans l'eau. Donc, ce qui fait que ça réduit tes mouvements. Donc, tu dois apprendre à bien parer. Et en fait, c'est pareil dans Sekiro, en fait. Tu commences, tu combats un monstre normal, puis d'un seul coup, il peut te choper. Et puis, d'un seul coup, il faut bien te déplacer sur la map avec ton grappin. Et il est sensible au feu, etc. Donc, en fait, souvent, les gens... le problème qu'ont les gens que je vois... Parce que j'ai regardé beaucoup de streams de gens qui jouent au jeu, parce qu'il y a la hype, donc tu as des joueurs qui n'ont jamais joué à ça qui jouent. En fait, c'est qu'ils se focalisent sur une unité, alors que le jeu leur donne beaucoup de moyens de faire les choses, en fait. Et souvent, c'est ce qui manque. Un peu comme le jeu de combat, quand tu donnes des jeux de combat à tes amis, ils mâchent comme des... Ils mâchent, sans chercher à comprendre. Mais c'est pareil, en fait, ces jeux-là, c'est que c'est aussi punitif qu'un jeu de combat, c'est qu'il faut comprendre et avoir une garde.
C'est très old school, c'est... Mm-hmm. Je vais pas dire que c'est Megaman en 3D, mais les boss ont des patterns, il y a une façon de passer chaque truc, et c'est vrai que tu peux passer beaucoup de temps à trouver, mais il y a un peu cette mécanique. Ouais.
C'est un peu l'esprit arcade, en fait.
Oui, oui.
De ces trucs extrêmement punitifs, mais que tu étais hyper content d'avoir one credit après avoir joué pendant des heures et des heures.
Bah, Die and Retry, comme disait Legacy, ouais, c'est clair.
Et tu vois qu'il y a un mec qui a réussi à faire tous les jeux Souls From Software sans se prendre un seul hit.
Ah oui, j'ai vu passer ce truc-là et j'ai rien compris. Bref. Prosk, pardon, à toi.
Ouais, mais moi c'est pareil, j'ai super envie de les faire, DMC et Sekiro en ce moment. Après, j'ai un problème, c'est qu'en fait, je peux pas sortir d'un jeu quand je l'ai commencé et en ce moment, j'ai pas le temps de faire ça. Je vais passer des semaines. Je me suis remis sur Quake Champion, moi, enfin Quake Champions, qui est donc la version un peu actuelle de Quake 3 Arena, qui est vraiment mon jeu du cœur. Je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué à la fin des années 2000. Quake Champions, ils ont un peu de peine à trouver leur modèle, ça se viande en e-sport, c'est pas forcément ouf, mais une mise à jour super importante vient de sortir qui fait que gratuitement, parce que c'était pas le cas avant, on peut enfin créer des maps personnalisées, s'entraîner sur les maps, faire des duels contre ses copains, etc. et retrouver vraiment Quake, parce que ce qui est assez étonnant dans le jeu, si vous regardez les compètes, c'est qu'en fait c'est un jeu qui joue en 1 contre 1 dans des arènes assez petites et qui implique beaucoup de gestion de ressources, beaucoup de connaissances des déplacements, des distances des armes, une évaluation de risque et une reward en permanence et qui est super importante. Et en fait, c'est des notions qui sont pas... On va pas faire des parallèles vraiment foireux, mais il y a pas mal de notions qui sont un petit peu baston et qui, du coup, plaisent vachement, quoi. On s'y retrouve. Moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder.
OK.
Voilà, et c'est un peu dommage parce que le jeu, en fait, a du mal. Au début, il était vendu payant, ensuite, il est passé free-to-play. Ils sont vraiment sur quatre modèles à la fois, ça marche pas. et ils ont essayé d'introduire des héros, de passer Quake où tout le monde était égal à un système avec des héros qui ont différentes, un peu plus d'armure, un peu plus de vitesse, un peu plus de machin. Mm-hmm. Et dans les derniers mois, c'est pareil, ils ont arrêté ça, ils ont dit on met tout à plat, tous les personnages peuvent faire la même chose. Et du coup, ils essayent de retourner un peu à la vieille formule Quake à l'ancienne. Il y a quand même plus de chances qu'on en tire quelque chose, mais c'est quand même, ça en fait une meilleure porte d'entrée pour Quake, cette dernière version du jeu, et ça peut être l'occasion d'aller. Mm.
Voilà, mais on n'a rien dit, mais je crois qu'on est plusieurs là autour du micro à avoir joué à Apex, et beaucoup.
Oui.
Mais chut, pas gros point ici, c'est pas Shroud. Hein.
Pardon. Voilà.
Non, on n'y joue pas trop, non, vous inquiétez pas. Surstrike.
Surstrike à fond.
Corvalu.
Très bien, bah écoutez, c'est la fin de ce round 3 et donc la fin de ce podcast. Merci Flashcou, merci Prosk, merci Legacy. Merci.
Non, mais surtout merci à vous, les auditeurs.
Voilà, merci à vous, chers auditeurs, d'être une fois de plus au rendez-vous avec nous. Vous pouvez nous retrouver donc sur bagropoint.fr, sur le Twitter @bagropoint. Voilà, pour avoir toutes les actualités. Si vous voulez nous aider, soutenir un peu l'aventure Bagropoint, il y a un Patreon. Vous allez sur le site Patreon, vous cherchez Bagropoint, et puis vous pouvez mettre une petite pièce pour, dans le chapeau pour nous aider. Voilà. Du coup, on vous embrasse, on vous dit. À la prochaine, jouez bien ce que vous voulez, surtout. Pas avec n'importe qui, comme vous l'avez expliqué. Flashou, choisissez bien les personnes avec qui vous échangez vos moments de plaisir. Voilà, et protégez-vous, mettez la garde. Bisous à tous.
Ciao.
Ciao.
Ciao.